Les aventuriers.
Siempre que te pregunto qué, cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás.
Quizás, quizás.
Les aventuriers. Une émission de Fabienne Chauvière.
Philippe Lachaud, directeur de recherche à l'INSERM à Lyon. Je travaille sur l'attention, j'essaie de comprendre les mécanismes de l'attention et ce que peut être au niveau cérébral un état attentionnel favorable et les causes de la distraction notamment. Ouais, voilà, attention à l'attention.
Pour Jean-Philippe Lachaud, l'attention est un état que l'on peut apprivoiser. Nous souffrons tous de troubles de l'attention, de distraction. Nous connaissons tous ce décalage qu'il y a entre ce que nous sommes censés faire et ce que nous souhaitons faire. Souvent, l'esprit s'évade. Les neurosciences nous apprennent que de grandes forces agissent sur notre concentration et nous poussent à faire des sorties de route. Pour faire simple, quand certains neurones sont au travail, d'autres ont envie d'aller voir ailleurs. C'est ce qu'explique très bien Jean-Philippe Lachaud, chercheur INSERM au Centre de Recherche en Neurosciences à l'Université de Lyon. Dans son laboratoire, Jean-Philippe Lachaud met au point des tests pour mesurer la capacité à rester concentré. Il développe aussi des techniques destinées à améliorer son attention. Tout cela, il le raconte d'ailleurs dans son dernier livre « Le cerveau funambule » paru aux éditions Odile Jacob. Portrait d'un chercheur au look sportif qui aimerait bien que les neurosciences nous aident tous à trouver le bonheur. Jean-Philippe Lachaud, pourquoi ce sujet? Pourquoi cette fascination pour l'attention?
C'est une fascination qui remonte à mon enfance presque, notamment par mon passé de fan de sport, alors en particulier sur le tennis, mais j'étais fasciné par la capacité des champions à maîtriser leur attention pour être à leur meilleur niveau au meilleur moment, ce qu'on appelle aussi le mental par ailleurs. Et puis après, en réfléchissant à cette question, je me suis rendu compte à quel point la qualité de notre attention vraiment détermine aussi la qualité de notre rapport au monde, aux autres. Donc ça m'a fasciné. Comment est-ce qu'on étudie l'attention? Il faut s'intéresser au cerveau. Je suis parti vers les neurosciences.
Si on continue avec le sport, qu'est-ce qui vous fascinait dans le sport? Quel moment en particulier?
Alors c'était ces moments, vous savez, de grande tension, où on serait tous très très nerveux et on perdrait peut-être nos moyens et où on voit le champion qui à ce moment-là va être capable de faire le geste parfait avec une grande décontraction et surtout une attention qui est bien placée, exactement là où il faut. J'étais très émerveillé par cette capacité-là.
Donc la question centrale de vos recherches, c'est pourquoi on n'arrive pas toujours à bien se concentrer?
Oui, c'est ça. Pourquoi est-ce que l'attention nous échappe si souvent? Et puis aussi, finalement, que peut apporter une bonne attention? Est-ce qu'il existe des états d'attention qui soient plus favorables, vraiment optimaux pour une activité donnée? Et quel type de satisfaction on peut en tirer? Et surtout, comment arriver à ces états-là?
Parce que qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on n'est pas concentré, quand on est distrait, quand arrivent des pensées qui nous font aller ailleurs?
Alors, on a fait une expérience qui, pour moi, est assez parlante, qu'on a fait en collaboration avec nos amis de Grenoble du CHU, où on observe un cerveau qui est face à un mot qui lui est montré sur un écran, en fait, c'est une situation de lecture, et on compare une lecture attentive avec une lecture distraite. Et on voit que dans la lecture distraite, c'est ce qui peut arriver quand on est en train de lire un livre et qu'on est un petit peu fatigué, vous savez, on a l'impression que le regard balaye et puis on n'en retire pas grand-chose.
Oui. On ne sait plus ce qu'on a lu.
Exactement. Et on voit que si on regarde l'activité, cette espèce de vague de propagation de l'activité neuronale en réponse à ce qui est vu, le cerveau ne réagit presque que du bout des lèvres ou du bout des doigts, enfin, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il est à peine envahi par cette activité. L'activité s'arrête très tôt. Alors que lorsqu'on fait attention, l'image change radicalement. Et vous avez au contraire un envahissement de tout le cerveau, presque, par l'information, par ce monde extérieur, par ce mot qui est sous les yeux. Faire attention, c'est s'engager entièrement et c'est accorder ce qu'on a de plus précieux, ces ressources cognitives, cette énergie mentale, presque.
Mais on a souvent envie de s'engager totalement, comme vous dites. Et parfois, on n'arrive pas à se concentrer. Le cerveau fait des sorties de route, nous emmène ailleurs.
Oui, oui, c'est parce que l'attention, on a tous l'expérience, hein, c'est un petit peu comme un petit animal sauvage qui va s'agir d'apprivoiser. En fait, ça s'explique parce qu'il n'y a pas dans le cerveau qu'un mécanisme de contrôle volontaire. Il y a effectivement un système comme ça qui permet de placer l'attention de manière volontaire en fonction de ce qui est important pour nous, de ce qu'on cherche à faire. Et à côté de ça, vous avez d'autres systèmes de force qui vont réorienter l'attention de façon un petit peu réflexe en fonction d'autres critères qui sont plus stéréotypés. Si par exemple quelqu'un arrive et tout d'un coup fait du bruit, ça va orienter mon attention. C'est un réflexe d'orientation de l'attention. Donc c'est un autre système. Et puis, de la même façon, si je vois une publicité avec un visage au physique très agréable, un visage très souriant, ça va aussi attirer mon attention. Donc vous avez ces systèmes de force qui contrebalancent l'attention volontaire pour l'orienter plutôt vers ce vers quoi on a l'habitude de faire attention ou ce qu'on aime bien. Donc il y a un petit peu un jeu comme ça d'influence qui fait que souvent on se laisse distraire.
Ce que vous racontez, c'est comme si les neurones dans le cerveau, certains avaient envie de lire, d'autres de s'amuser, les troisièmes d'aller se coucher.
C'est exactement ça, et je pense que c'est assez profond, et j'irais même jusqu'à dire que c'est une des découvertes assez fondamentales des neurosciences de ces dernières années. C'est que quand on dit je fais attention, etc., le je, c'est en fait une collection de systèmes qui sont en interaction les uns avec les autres, qui ne sont pas toujours d'accord. Donc cette idée du je, de qui décide dans mon cerveau de faire attention à ceci ou cela, la réponse n'est pas si simple. Il n'y a pas cette unité à laquelle on pourrait penser de façon intuitive.
Pour expliquer ce qui se passe dans le cerveau, vous avez dans votre dernier livre pris l'exemple de Lucky Luke qui rentre dans un bar.
C'est un exemple qui me permet d'illustrer la rapidité avec laquelle le cerveau va réagir à un événement extérieur. Parce que le cerveau a pour fonction principale de produire un comportement adapté, c'est-à-dire d'orienter nos actions, les ajuster de façon efficace par rapport à ce qui nous arrive autour de nous. Donc l'exemple, c'est Lucky Luke qui rentre dans un bar, et puis derrière le bar, il y a le grand vilain qui s'apprête à lui tirer dessus. Donc il y a un mouvement qu'il détecte, et puis il y a un passage comme ça dans son cerveau de la perception à l'action, c'est-à-dire le fait de tirer avec la rapidité qu'on connaît chez Lucky Luke. Et en fait, vous avez un enchaînement de trois phases. Une première phase qui est une propagation de cette énergie, en fait, qui vient des sens. Donc ces cortex sensoriels qui sont chargés d'analyser le monde. Qu'est-ce qu'il y a autour de moi ? C'est quelqu'un qui est derrière le bar, c'est peut-être le méchant, qui se produit en fait en moins de 1-2 dixièmes de seconde. C'est vraiment extrêmement rapide. Derrière, vous avez une toute petite phase de décision. Donc, est-ce que je tire ou non ? Et puis, à la fin, donc le geste de tirer ou non, d'ailleurs. Et tout ça s'accomplit finalement en, on va dire, peut-être une demi-seconde. Donc, c'est extrêmement rapide. Et tout ça s'enchaîne comme ça, sous forme de cycle, entre la perception et l'action, constamment. Et c'est pour ça qu'il est si facile de faire des sorties de route et de choisir la mauvaise action ou la mauvaise cible de l'attention.
Mais là, en l'occurrence, Lucky Luke, il est toujours concentré.
Lucky Luke est toujours concentré. Enfin, à un moment, j'aborde la possibilité qu'il puisse avoir aussi une addiction à l'alcool, par exemple. Pour...
Ah oui, si Lucky Luke aimait le whisky, il tirerait peut-être moins vite.
Eh oui, parce que la bouteille de whisky qui est sur le bar attirerait son attention. Il y aurait une réorientation réflexe avec ces systèmes que j'évoquais tout à l'heure et qui dévieraient de sa cible originale.
Mais quand le cerveau zappe, qu'est-ce qui se passe biologiquement ?
Il faut reprendre juste un pas en arrière. Qu'est-ce qui se passe quand on est concentré ? Quand on est concentré, on garde en mémoire ce sur quoi on doit se concentrer. Finalement, rester concentré, c'est aussi un problème de mémoire. Je me souviens que je dois rester concentré sur ce que je suis en train de faire, que je dois continuer à vous écouter jusqu'à la fin de votre phrase. La mémoire est maintenue grâce à des neurones, principalement situés à l'avant du cerveau, dans ce qu'on appelle le cortex préfrontal, qui vont rester actifs de manière continue. Pour maintenir justement cette information, voilà ce sur quoi je dois me concentrer. Or, en fait, ces neurones n'ont qu'une envie, d'une certaine façon, c'est s'arrêter, arrêter d'être actif. C'est très dur pour ces neurones de rester actifs. Donc, à la moindre distraction, vous allez avoir un oubli du fait qu'il faut être concentré. Et bien souvent, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'au moment où on se laisse distraire, on oublie ce sur quoi on devait se concentrer. Et ça se passe en une fraction de seconde.
Ça s'apprend, se concentrer s'apprend.
Oui, ça s'apprend. Alors ça s'apprend, c'est tout un chemin, en fait, ça peut être un chemin de vie hein, qui amène à finalement cette sensation vraiment enrichissante d'un meilleur contact au monde, meilleur contact à l'autre. On peut évidemment procéder avec des petits trucs pour mieux se concentrer, bien sûr, mais les petits trucs, c'est pas, si vous apprenez un instrument de musique, c'est pas les petits trucs qui vont vous apprendre à jouer du violon magnifiquement du jour au lendemain. On se doute bien qu'il y a un processus d'apprentissage.
Mais biologiquement, est-ce qu'on est tous égaux devant l'attention ?
En fait, cette question, elle fait écho à la précédente sur les mécanismes biologiques et ce qui se passe pendant la concentration. Donc, la capacité à rester concentré dépend donc de ces neurones, de cette activité soutenue. Et cette capacité à soutenir leur activité pour ces neurones va dépendre de la concentration de certains neurotransmetteurs. Vous savez, ces molécules qui permettent aux neurones de fonctionner et de communiquer, notamment un qui s'appelle la dopamine. Donc, selon la quantité de dopamine qu'on a dans son cerveau, disponible dans des structures, le cortex préfrontal dont j'ai parlé, effectivement, il peut y avoir des différences d'une personne à l'autre. Après, l'efficacité aussi du cortex préfrontal va déterminer la qualité d'attention chez l'enfant. C'est une des dernières structures à arriver à maturation, vers la fin de l'adolescence, ce qui explique aussi la plus grande difficulté des enfants à maintenir leur concentration par rapport à l'adulte.
Jean-Philippe Lachaud, spécialiste de l'attention. Est-ce que être trop concentré, ça peut être un problème ?
C'est une question que j'entends si on considère la concentration comme une fermeture au monde. Une fermeture à une grande partie du monde avec une focalisation juste sur un objet. Alors effectivement, dans ce cas-là, on peut se poser des questions, notamment par rapport à la créativité. Est-ce que être créatif, c'est pas justement être ouvert à ce qui peut se passer, aux idées qu'on peut avoir, et être trop concentré pourrait finalement se faire au détriment de la créativité. En fait, c'est pas le cas, et j'ai une collègue qui s'appelle Claire Petit-Mangin qui a écrit un magnifique livre sur l'intuition, l'expérience intuitive, qui a été interrogée des gens qui utilisent l'intuition, notamment créatrices, qui les a interrogées sur la qualité de leur attention, leur stratégie attentionnelle. Et elle s'est rendue compte qu'en fait, il y a souvent une connexion avec un espace particulier, qui est évidemment un espace mental, mais qui doit être stabilisé, et qui fait que les idées vont venir, que la création va s'opérer. Alors, il est difficile de vraiment être créatif quand on a une attention qui part sans arrêt dans toutes les directions.
Mais il n'y a pas de rapport entre une trop grande attention et l'autisme, par exemple ?
C'est une des théories actuelles sur l'autisme, où il y aurait une attention trop focale. Alors, l'attention trop focale, vous savez, c'est je me focalise, je porte mon attention sur l'arbre plutôt que sur la forêt. C'est une théorie. Mais la concentration, la stabilité de l'attention n'implique pas forcément une fermeture. On peut avoir une attention très stable, mais sur quelque chose de très vaste.
Est-ce que ça vous arrive à vous d'être distrait ?
Alors oui, ça m'arrive comme tout le monde, parce que le cerveau, vous savez, c'est 100 milliards de neurones connectés les uns aux autres dans tous les sens, donc c'est un système hyper dynamique qui réagit à tout ce qui se passe. C'est très difficile de stabiliser vraiment l'activité de cet énorme système. Ces déstabilisations produisent des sorties de route de l'attention, de distraction, donc évidemment. Mais quand même, j'essaye d'incarner ou d'implémenter dans ma vie quotidienne ce que j'apprends au laboratoire, pour quand même développer au fil de ma vie une meilleure maîtrise de mon attention. Ça m'arrive d'être distrait, ça m'arrive quand même de moins en moins. Your eyes are going through different times to follow through the attach your love to your heart. When your eyes are going through different times to follow through the attach your love to your head before it starts to your heart. Give it away. Attach your head to your heart before it strays. Steal your heart, give it away. Attach your head to your heart before it strays. Steal your heart, give it away.
Attach your head to your heart before it strays. Give it away. Attach your head to your heart before it strays. Give it away. Attach your head to your heart before it strays. Give it away. Attach your head to your heart before it strays. Give it away. Attach your head to your heart before it strays. Give it away. Attach your head to your heart before it strays. Give it away. Attach your head to your heart before it strays. Give it away. Attach your head to your heart before it strays. Give it away. Attach your head to your heart before it strays. Give it away. Attach your head to your heart before it strays. Give it away. Attach your head to your heart before it strays. Give it away. Attach your head to your heart before it strays. Give it away. Attach your head to your heart before it strays. Give it away. Attach your head to your heart before it strays. Give it away. Attach your head to your heart before it strays. Give it away. Attach your head to your heart before it strays. Give it away. Attach your head to your heart before it strays. Give it away. Attach your head to your heart before it strays. Give it away. Attach your head to your heart before it strays. Give it away. Attach your head to your heart before it strays. Give it
Give It Away, c'était The Shoes.
Les aventuriers. La recherche, toute une aventure. Fabienne Chauvière.
Jean-Philippe Lachaud, chercheur en neurosciences, mène des travaux sur le cerveau dans son laboratoire à Lyon. Et il a trouvé des pistes qui peuvent nous aider à améliorer nos qualités d'attention. Car nous pouvons être victimes du circuit de la récompense qui nous pousse à aller malgré nous vers ce qui nous fait plaisir. Ce chercheur dynamique a aussi lancé un programme de recherche destiné à développer les capacités attentionnelles des enfants à l'école. Alors, qu'est-ce que vous faites dans votre laboratoire ?
Deux types de recherches. D'abord, et ça c'est ce que j'avais commencé à faire il y a une quinzaine d'années en collaboration avec l'hôpital de Grenoble, principalement et maintenant aussi avec Lyon, un travail avec des services d'épilepsie pour examiner, étudier le cerveau avec une précision assez unique. Mm-hmm. Certains patients épileptiques ont besoin pour être guéris qu'on aille faire une sorte de repérage dans leur cerveau pour identifier les zones à l'origine de l'épilepsie. Et pour ces gens-là, pour qui les médicaments ne marchent pas, il n'y a pas d'autre solution que d'aller enlever un petit bout de cerveau. Alors évidemment, à ce stade, la question qui se pose aux neurochirurgiens, c'est d'enlever juste ce qu'il faut et de ne pas aller trop loin. Donc c'est là que j'interviens en demandant aux patients tout simplement de réaliser des petits tests cognitifs, des petits tests d'attention, mais aussi de langage, de mémoire, pour voir comment réagit leur cerveau, qui est enregistré avec des électrodes qui sont donc placées directement dans la matière cérébrale et qui enregistrent, pour vous donner une idée, avec une précision en termes d'anatomie, de l'ordre du petit pois. C'est-à-dire qu'on enregistre les neurones qui se situent dans un petit pois autour de l'électrode. Donc c'est vraiment hyper fin, 1000 fois par seconde. Et ce qui permet de comprendre, donc indépendamment presque du fait que ces patients souffrent d'une épilepsie, mais comment fonctionne le cerveau humain et comment il réagit de façon hyper rapide lorsqu'on reconnaît un visage, ou comme ça, avec cette espèce de micro-cognition.
Qu'est-ce que vous avez appris avec cette technique ?
J'apprends comment le cerveau va réagir, notamment dans cette petite fraction de seconde qui suit, par exemple, le moment où l'œil va se poser sur un visage ou sur un mot, selon qu'il est attentif ou non. Donc c'est vraiment ça que je vais regarder.
Et là, vous avez réalisé que c'est très rapide ?
Oui, c'est extrêmement rapide. Quand on parle du Big Bang, on s'intéresse vraiment au tout premier moment. Là, pour la reconnaissance d'un visage, tous les petits actes de la vie quotidienne, tout va tellement vite que c'est vraiment à chaque fois la fraction de seconde qui est intéressante pour aller regarder presque au microscope comment ça se passe, quelle est la dynamique du cerveau à ce moment-là et comment elle est modifiée par l'attention.
Ça, c'est la première partie de votre travail.
Oui. Alors, l'autre partie, c'est de développer vraiment des tests qui mesurent la capacité de concentration. Donc là, par exemple, on vient de terminer une étude de 3 ans qui consistait à développer un test pour mesurer justement à quel point on peut rester concentré. Et souvent, on a la surprise de réaliser à quel point il est difficile de rester concentré.
Alors, quel genre de test ?
C'est un test, sans rentrer dans le détail, qui demande, toutes les 2 secondes environ, d'appliquer un ensemble de processus cognitifs. Par exemple, de reconnaissance d'une lettre sur un écran, de mémorisation de cette lettre. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois, justement, à cause de cette dynamique spontanée de l'attention, vont se greffer là-dessus d'autres processus cérébraux qui n'ont rien à voir. Ça va être, tout d'un coup, je vais penser que mes chaussures me font mal ou que je vais me demander quand l'exercice va se terminer. Toutes ces petites choses en plus qui, en fait, constituent des distractions. Et là, avec ce type de tâche et en enregistrant l'activité cérébrale avec la précision dont je parlais avant, vous êtes capable de décortiquer exactement le mécanisme d'une distraction. Qu'est-ce qui se passe pendant une distraction ? Quel est l'effet sur la cognition et pourquoi est-ce que, du coup, on est moins efficace ?
Jean-Philippe Lachaud, directeur de recherche à l'INSERM, spécialiste de l'attention. Et qu'est-ce que vous avez compris ?
Pour l'instant, donc on en est encore au stade de... On n'a pas complètement terminé l'analyse de ces données, mais en gros, on voit que pour être attentif, il faut non seulement activer certaines zones du cerveau, mais également en désactiver d'autres. Et ça, c'est très important. C'est un des résultats majeurs des neurosciences cognitives de ces 10 dernières années. C'est qu'il y a tout un ensemble, un réseau de régions dont l'activité tend à interférer avec l'attention vers l'extérieur. Donc quand ces régions sont trop activées, il va y avoir distraction. Et elles vont aller interférer de façon négative avec les régions du cerveau qui sont, elles, censées réaliser la tâche. Et c'est exactement ce qui se passe au-delà de cet exercice, quand par exemple vous écoutez quelqu'un parler et qu'à un moment vous allez décrocher. C'est-à-dire que écouter quelqu'un parler, pour que tout se passe bien et pour comprendre, il faut enchaîner certains processus cognitifs de reconnaissance de ce que dit la personne au niveau juste auditif, et puis d'interprétation du sens et de mémorisation, replacer ça dans le contexte d'une phrase. Donc tout ça, voilà, vous avez des zones cérébrales qui sont censées faire ça et qui le font d'habitude très bien, sauf quand les autres, tout d'un coup, se mettent à se suractiver et qui vont justement envoyer l'énergie loin de ce régime optimal.
Mais pourquoi est-ce qu'il y a d'autres zones qui s'activent quand on est censé être concentré ? Vous parlez du circuit de la récompense. Ça veut dire que dans le cerveau, tout le temps, les neurones, ils ont envie de se faire plaisir ?
Oui. Alors le circuit de récompense, c'est un ensemble de neurones dont le travail est très simple. Il consiste à évaluer à chaque moment l'intérêt de ce qu'il y a autour de nous. Mais l'intérêt en fonction de quoi ? En fonction de ce qui nous a fait plaisir par le passé. Donc leur effet va être non seulement sur le comportement moteur, mais également sur l'attention. Donc je vais avoir comme ça, grâce au circuit de récompense, tendance naturellement à faire attention aux choses que j'aime bien. C'est ce que les publicitaires ont parfaitement compris.
Et c'est pour ça que quand on est devant l'ordinateur, on zappe vers ses mails, on va voir des sites qui ne sont pas en rapport avec ce qu'on est en train de faire. C'est ça ?
Tout à fait, voilà. Vous faites une recherche sur Internet, vous avez une idée bien précise en tête de ce que vous cherchez. Donc cette idée, elle est maintenue en mémoire par le cortex préfrontal. Et puis, à côté de ça, vous allez avoir des petites images qui bougent, des petits personnages rigolos qui, eux, vont stimuler le circuit de récompense. Et le circuit de récompense va vous inciter à faire attention à ces petites images. Donc on voit ici cette espèce de conflit qui se passe entre les grands systèmes qui orientent l'attention.
Jean-Philippe Lachaud, chercheur en neurosciences. On comprend bien que l'école est très intéressée par ce genre de recherche. Vous avez d'ailleurs engagé un programme de recherche destiné à développer les capacités des enfants à l'école. Où est-ce que vous en êtes ?
Alors c'est le programme ATOL, Attentif à l'école, qui est une histoire un petit peu rigolote. Donc je devais mesurer l'attention des enfants avec le test dont j'ai parlé. Pour mesurer l'attention, il faut aller dans les classes. Parler aux enseignants et leur dire, est-ce que par hasard, pendant une heure, vous pouvez me prêter, entre guillemets, vos enfants ? Très gentiment, on dit, y a aucun souci. Mais par contre, c'est donnant-donnant, venez nous parler d'attention. Donc j'ai été amené comme ça à faire des conférences pour expliquer l'attention aux enseignants et aux parents d'élèves.
Donc vous leur expliquez ce que vous nous avez dit là.
Exactement, je leur expliquais quelles étaient les forces qui gouvernaient l'attention, pourquoi est-ce que c'était pas si facile de rester concentré, etc. etc. À la suite, c'était, très bien, vous êtes l'expert de l'attention, maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Tous ces enfants qui ont des problèmes d'attention, donnez-nous des solutions, vous qui connaissez si bien l'attention. Et c'est là où le neurobiologiste se dit, mais suis-je vraiment expert de l'attention ? Si je le suis, je dois être capable de donner des réponses à ces questions très simples. Donc j'ai essayé de relever le défi avec mes collègues pour proposer un programme Attentif à l'école, ATOL, qu'on essaie de développer sur Lyon et sur Grenoble, avec maintenant à peu près 35 classes, principalement en école élémentaire, pour justement, sur une vingtaine de séances, entraîner l'attention, faire découvrir l'attention, le fonctionnement du cerveau, et donner une sorte de boîte à outils cognitive, de petites stratégies cognitives pour faire face à la distraction.
Qu'est-ce qu'il y a dans votre boîte à outils, par exemple ?
On distingue en fait trois grandes approches. La première, c'est de remarquer les distractions. Distraction externe, mais aussi distraction interne par les pensées, et savoir y réagir. Donc, quand je me laisse distraire, mon attention tout d'un coup part, sont souvent associées à une réaction du corps. Vous pouvez tous en faire l'expérience, vous marchez dans la rue, puis tout d'un coup, il y a une affiche publicitaire dans un coin qui va attirer votre attention. Tout de suite, votre regard va aller voir. Vos yeux vont bouger. Et en général, en plus des yeux, vous avez également la tête, voire le buste qui se tourne. Donc il y a comme ça un ajustement du corps, une déstabilisation de la posture, qui est proche en fait de celle dont on peut faire l'expérience sur une poutre, quand on traverse une poutre et qu'on commence à tomber. Et le petit secret de la concentration à ce stade, c'est que vous allez d'autant plus facilement vous restabiliser que vous remarquez tôt que vous êtes en train de partir. Exactement comme sur une poutre. Si vous remarquez trop tard que vous êtes en train de vous laisser déconcentrer, en fait, vous avez déjà oublié qu'il fallait être concentré. Donc il faut remarquer au moment où vous vous laissez distraire que le phénomène de distraction est restabilisé tout simplement en détendant le corps et en le ramenant. Après, vous avez des choses plus simples. C'est le deuxième axe, c'est que souvent les enfants, mais nous aussi les adultes, on chasse plusieurs lièvres à la fois. On se fixe plusieurs choses importantes à faire en même temps. Et pour le cerveau, c'est une catastrophe parce que tout est important en même temps. Donc on va être extrêmement distrait, l'attention va s'éclater entre mille choses. Donc on essaie de leur apprendre à se fixer des mini-missions, parfois très courtes, claires, très concrètes, faire ceci pendant les 2, 3, 4 minutes qui viennent, et puis ensuite passer à autre chose. Donc comme ça, on découpe une seule chose à la fois. On essaie de leur donner cette habitude-là. Donc ça, c'est le deuxième axe. Et le troisième axe, en fait, c'est de les amener à découvrir eux-mêmes ce que signifie être concentré sur l'activité qu'ils sont en train de faire. Par exemple, j'écoute quelqu'un parler. Pour écouter avec attention, il faut favoriser une perception particulière, qui est évidemment la voix de la personne qui parle. Donc une perception auditive. Mais ce n'est pas tout. Il faut également que je stabilise une manière d'agir face à ce que j'entends. Par exemple, pour un enfant écoutant une histoire, dès que la personne évoque quelque chose de concret, je sais pas, un éléphant, un renard qui vient, peut-être fabriquer une sorte d'image mentale. Tiens, je vois l'image, je vois l'éléphant qui arrive, je vois la forêt, etc. Avec comme intention de me former une petite image de la scène et de pouvoir la raconter. Donc il y a comme ça une sorte de trépied, d'assemblage de trois composantes, une perception particulière, une manière d'agir particulière et puis une intention particulière qui ensemble vont accrocher l'attention et la stabiliser.
C'est une gymnastique.
C'est une gymnastique, c'est une technique qu'on finit par apprendre.
Et dans quelques instants, Jean-Philippe Lachaud développera d'autres techniques destinées à maintenir notre attention.
T'allais te marier,
j'étais engagé.
Route toute tracée,
chemin dégagé.
Cupidon lancé,
ne m'a pas loupé.
C'était Jojoa et Lieutenant Nicholson.
Les aventuriers. Fabienne Chauvière. Sur France Inter.
L'attention se cultive et s'apprivoise, surtout lorsque les objectifs sont clairs et précis. Voilà pourquoi faire des listes est une technique qui peut aider à dompter ses neurones. Dans son livre « Le cerveau funambule », Jean-Philippe Lachaud donne 50 trucs pour éviter la distraction. Le sujet est important car pour ce chercheur, lorsque le cerveau est attentif, il se repose et nous en retirons tous un véritable bien-être. Alors Jean-Philippe Lachaud, d'autres techniques pour améliorer son attention? Moi j'ai compris qu'il fallait ne pas se fixer trop d'objectifs à la fois et avoir des objectifs clairs.
Oui, d'une façon générale, très clair sur son intention, qu'est-ce qu'on cherche à faire dans les minutes qui viennent. Et puis, progressivement, apprendre à découvrir son attention, l'observer vivre. Par exemple, en observant ses déplacements du regard dans tous les sens, se familiariser.
Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous aider, comme l'hypnose, la méditation?
Oui, l'hypnose va jouer sur l'attention, généralement en la stabilisant, voire en la vissant à un objectif particulier. Bon, l'hypnose, généralement, il faut quelqu'un qui vous hypnotise. Après, il y a l'auto-hypnose, que je connais moins bien, mais qui, à mon avis, peut être efficace. La question de la méditation aussi est intéressante, parce qu'on voit que la méditation se popularise de plus en plus. Mmh. La méditation, bien souvent, c'est un apprentissage de cette capacité à stabiliser son attention. Ce que vous prenez une session typique de méditation au début, on vous donne un objet d'attention, par exemple la respiration. Voilà, donc vous avez une perception à favoriser, puis vous avez une manière d'agir. Dès que vous remarquez que vous avez laissé votre attention partir, vous ramenez cette attention tout doucement, avec l'intention de maintenir votre attention de la façon la plus continue possible.
Est-ce qu'il y a des médicaments qui peuvent favoriser l'attention ?
Oui, il y en a, vous savez, il y a toute une industrie de développement de médicaments pour stabiliser l'attention qui vont jouer sur la quantité de dopamine qui est disponible, notamment dans le cortex préfrontal. Si j'ai une recommandation à donner, c'est dans l'ensemble de toujours commencer par d'abord des techniques douces de familiarisation avec l'attention et de n'arriver aux médicaments qu'en dernier recours.
Alors parmi les techniques douces, vous expliquez très bien que notre cerveau aime être récompensé. On ne peut pas faire plusieurs tâches à la fois, il vaut mieux faire une succession de petites tâches. Faire des listes et faire des croix, ça fait partie d'une des techniques possibles.
Oui, c'est très efficace. Le fait de faire des listes, déjà c'est très bien parce que ça vous évite d'avoir à garder en mémoire tout ce que vous avez à faire après. Ce qui est terrible pour l'attention parce que justement, ça va occuper des ressources cognitives qui ne sont pas disponibles pour votre activité du moment. Donc les listes, c'est très bien. Après, on peut devenir plus technique au niveau des listes. C'est-à-dire, à quel niveau de précision est-ce que vous décrivez dans la liste ce que vous avez à faire ?
Par exemple ?
Si vous dites, je dois écrire, rédiger le rapport, machin. C'est très vague. Ça ne veut pas dire grand-chose pour votre cerveau au moment où vous êtes sur cette activité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que votre cerveau, vraiment plusieurs fois par seconde, doit décider si ce qu'il a sous les yeux ou ce qu'il entend est pertinent pour la tâche à réaliser. Donc plus vous décomposez ce que vous avez à faire en petits éléments très fins, beaucoup plus précis que ça, plus c'est facile pour votre cerveau de définir ce qui est pertinent pour la tâche à réaliser.
Donc il faut s'organiser en fait.
Ah oui, tout à fait, oui. Il faut découper parfois de façon consciente et volontaire ce qu'on a à faire.
Est-ce que c'est fatigant d'être très concentré ?
C'est vraiment une excellente question.
Merci.
C'est une question même fondamentale. Parce que vous avez tout un petit courant de recherche qui est en train d'émerger en neurosciences et en psychologie sur l'idée d'une attention sans effort, qui défend en fait l'idée, preuve à l'appui, que ce n'est pas l'attention qui est fatigante en elle-même. Au contraire, le fait d'être attentif sur un objet unique pourrait au contraire reposer le cerveau. Et ce qui serait fatigant, ce seraient les conflits. Les conflits entre quoi ? Entre plusieurs cibles attentionnelles qui sont incompatibles. J'essaye de faire attention à ceci et à cela en même temps. Il y a conflit, mon cerveau le remarque et souffre et se fatigue. Donc le fait de développer une capacité à stabiliser son attention sur un objet unique sera au contraire reposant.
C'est pour ça qu'on se sent bien quand on est très concentré sur quelque chose ?
Oui, quand on est très concentré sur quelque chose, on peut être complètement absorbé et avoir une sensation même que le temps passe plus ou s'arrête ou au contraire passe à une vitesse folle. Une sensation vraiment d'enrichissement personnel. Vous savez, vous avez cette littérature anglo-saxonne sur le concept de flow, cette fluidité. Quand on est complètement dedans et que tout se passe comme dans un rêve, c'est un très bon exemple de ce qu'une bonne qualité d'attention peut apporter.
Vous connaissez cet état ?
Oui. j'ai cette chance-là, mais comme tous. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, justement, on peut déduire des neurosciences des conditions un petit peu favorables à cet état-là. Et après, essayer de le reproduire le plus possible dans sa journée, même dans des activités hyper banales.
Et au fond, qu'est-ce que vous aimeriez trouver ?
C'est une très bonne question. Ce que j'aimerais trouver, c'est peut-être un chemin vers cet état-là. C'est ce type d'état d'attention favorable, que tout le monde puisse expérimenter.
C'est ce que vous cherchez dans votre laboratoire ?
Oui. Après, il y a une croisade qui est un petit peu plus générale, qui est de redonner à l'attention ses lettres de noblesse. Quand on parle du cerveau, on parle souvent beaucoup d'émotions, beaucoup de mémoire. Mais finalement, l'attention, on n'en parle pas tant que ça.
Comment ça se fait ?
Je ne sais pas, je m'interroge. Je suis mal placé pour lire, parce que pour moi, c'est tellement important. Mais je crois qu'il n'y a pas eu encore une prise de conscience de ce que l'attention apporte à chaque moment. Et à quel point, vraiment, elle détermine la qualité de ce rapport au monde.
Et est-ce que les nouvelles technologies, est-ce que le web, les ordinateurs ont une influence sur notre attention, sur le cerveau ?
Elles ont une influence dans la mesure où elles sursollicitent notre attention. Donc si on revient à la définition de l'attention originelle, qui est un processus de sélection. Sélectionner parmi tout ce qu'il y a autour de nous, ce qui est le plus important. Bah, c'est sûr que plus vous avez de choses autour de vous, plus il est dur de choisir. Vous arrivez au supermarché, s'il y a un produit, c'est pas dur de choisir. S'il y en a 1000, le problème du choix se pose. C'est la même chose avec toute l'information qu'il y a autour de nous. Donc ce système de sélection qu'est l'attention est sursollicité. Donc on voit d'autant mieux ses défauts.
Et c'est pour ça que les enfants aiment beaucoup les écrans, vous expliquez ça ?
Oui, en plus, les écrans souvent font, en fait, tapent directement dans le circuit de récompense, en apportant de la nouveauté, des choses rigolotes. Bah, évidemment, quand vous faites un produit qui est destiné à une tablette ou un ordinateur, qui est destiné à être vendu, vous réfléchissez pour le rendre amusant, pour que les gens l'achètent. Donc il y a comme un concours de créativité, d'imagination pour créer des produits qui vont solliciter le circuit de récompense au maximum, bien sûr.
Est-ce que ça ne veut pas dire que les enfants qui sont nés avec ces technologies-là ne vont pas être mieux préparés que nous qui ne sommes pas nés avec ça?
Alors c'est pas évident, parce qu'un cerveau d'enfant ou d'adulte qui est confronté à un environnement très changeant, avec beaucoup de nouveautés, va finalement s'adapter et va développer presque une affinité particulière pour ces changements rapides. S'il va le mettre dans une situation très inconfortable, quand tout d'un coup l'environnement est très statique, par exemple un cours avec un professeur qui parle d'une voix monocorde pendant une heure, là, au contraire, il va être très difficile pour l'enfant de rester concentré dans ces situations-là.
Donc il faut des profs marrants.
Ou alors, plutôt, parce que quand on est un élève, on n'a pas toujours un vrai contrôle sur la qualité de ses professeurs, le fait qu'ils soient marrants ou non, apprendre aux enfants à faire face aussi bien aux environnements monotones qu'aux environnements très dynamiques.
On écoute Kate Bush, Babushka.
Fabienne Chauvière. Les Saventuriers. Sur France Inter.
Le bonheur est peut-être un état de plénitude associé à une concentration intense. La piste est explorée par les neurosciences. À travers tous les travaux qui sont menés autour de l'attention, c'est la compréhension du cerveau qui est en jeu. Jean-Philippe Lachaud, avec son laboratoire, participe au vaste programme européen Human Brain Project, la construction d'un cerveau synthétique. Est-ce qu'il y a beaucoup de laboratoires qui s'intéressent à l'attention dans le monde ?
Il y a énormément de laboratoires qui travaillent sur l'attention.
Ah bon ?
C'est un des thèmes les plus populaires en termes de thématiques de recherche de par le monde en neurosciences cognitives. C'est un des thèmes les plus étudiés.
Et pourquoi ?
À cause de son omniprésence et de son influence sur tous les autres processus cognitifs.
La mémoire, la conscience.
Exactement. Voilà. Donc il y a évidemment une influence de l'attention sur la conscience, un effet de l'attention sur la mémoire, etc. Donc c'est un sujet qui est extrêmement étudié. Et ce qui est d'ailleurs étonnant, c'est de voir le décalage qu'il y a entre le traitement de l'attention dans les laboratoires, par les spécialistes, et le traitement de l'attention dans les médias en général, auprès du grand public. Mm-hmm. C'est un thème dont on n'entend quasiment jamais parler.
C'est vrai, il y a très peu de livres sur le sujet.
Ouais. Ce qui, à mon avis, peut s'expliquer par le fait que c'est assez difficile d'écrire un livre sur l'attention, parce que chaque laboratoire travaille sur un tout petit aspect de l'attention. Vous avez un laboratoire qui va travailler de façon extensive sur la façon dont on déplace son attention dans l'espace. C'est-à-dire vous fixez un point et tout d'un coup, vous voulez faire attention à ce qui se passe sur votre droite. Donc, il y a un mécanisme pour faire ça. Et vous avez un laboratoire qui a consacré 10 ans, 15 ans à cette thématique-là. Puis, vous avez d'autres laboratoires qui vont travailler sur le lien entre plaisir et attention. Pourquoi est-ce qu'on fait plus attention à ce qui nous fait plaisir ? Les deux n'auront rien à voir et ne vont même pas aller dans les mêmes congrès, ne même pas discuter entre eux. Donc si on veut s'intéresser au cerveau et à l'attention de façon générale, il faut faire un peu la synthèse de tout ça.
Et dans votre laboratoire, on s'intéresse à quoi précisément ?
Dans mon groupe de recherche spécialisé sur l'attention, on va s'intéresser à l'attention vécue. C'est-à-dire que les questions qui, moi, m'intéressent le plus, ce sont les questions qui viennent des gens vraiment sur le terrain, de l'enseignant qui a un problème avec l'attention de ses élèves, du sportif de haut niveau qui va décrire un problème de déconcentration. C'est ces questions-là qui m'intéressent. C'est l'attention telle qu'elle est vraiment vécue.
Ça veut dire que vous travaillez avec des sportifs ?
Oui, alors là, j'ai un projet avec une collègue, Claire Petit-Mangin, que je citais tout à l'heure, pour aller interviewer des sportifs pour justement repérer un élément, un moment particulier de leur carrière. Ça peut être... on a vu Alain Bernard, comme ça récemment, qui nous parlait du deuxième 50 mètres.
Donc Alain Bernard, le nageur.
Le nageur, exactement, en finale des championnats d'Europe, où il avait remporté la médaille, qui nous parle d'un moment particulier et de son état attentionnel à ce moment-là. Et de ce qui faisait que l'état attentionnel était plus ou moins favorable à la performance. Comment il définit lui-même un état attentionnel favorable, comment il en sort, comment il essaie de s'y remettre. Oui, toutes ces stratégies-là attentionnelles pour essayer peut-être d'en parler après, de relayer ces récits auprès du grand public pour faire découvrir ce qu'est une attention maîtrisée et le plaisir qu'on peut en tirer.
Jean-Philippe Lachaud, directeur de recherche à l'INSERM. Et il ressemble à quoi votre laboratoire ? Qu'est-ce qu'il y a ?
Alors le laboratoire en lui-même, c'est un endroit assez banal, avec des bureaux et des ordinateurs. Pourquoi ? Parce que depuis une quinzaine d'années, dans notre domaine des neurosciences cognitives, la composante d'ingénierie, de développement de programmes, d'analyse, des signaux qu'on enregistre dans le cerveau a pris une place très importante. Donc il y a beaucoup de mathématiques par exemple. Et puis l'autre partie du laboratoire, en fait, n'est pas au laboratoire, mais finalement c'est la plus importante. C'est dans mon cas, c'est l'hôpital avec les patients qui sont en train justement de réaliser les petites tâches cognitives qu'on leur propose, etc.
Derrière ce sujet, c'est toute la compréhension du cerveau.
Oui, bien sûr. Donc la compréhension du cerveau, on en est vraiment qu'au tout début. Même si je pense que dans les grandes lignes, on a développé une certaine compréhension de comment ça se passe. C'est-à-dire que je peux prendre une analogie qui est celle de la météo. Vous prenez les grands systèmes météorologiques, on commence à avoir une idée de comment ça fonctionne, les vents, les courants, etc. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'études qui se font à un niveau très micro, on se rend compte que c'est horriblement compliqué. Et puis, comme je vous disais, 100 milliards de neurones et tout. Mais grosso modo, les grands systèmes, on commence à les comprendre un petit peu.
Et le grand projet qui consiste à copier un cerveau humain sur ordinateur, où est-ce qu'on en est ?
Ouais, c'est le projet, le Human Brain Project, donc un projet à 1 milliard d'euros qui fédère énormément de laboratoires en Europe, avec l'ambition affichée au départ qui était de reproduire un cerveau humain sur ordinateur d'ici 10 ans. Bon, on est un petit peu revenu en arrière, parce que évidemment, c'est un objectif qui est complètement irréaliste.
Mais vous travaillez dessus ?
Oui, on participe à ce projet, effectivement. Justement, avec la qualité des données qu'on obtient chez les patients, qui est assez unique et qui intéresse beaucoup les gens qui cherchent à modéliser le cerveau humain, bon, on essaie de participer à cette aventure. Mais en tout cas, ça dynamise la communauté, ça c'est très bien.
Mais où est-ce qu'on en est ? Qu'est-ce que vous aimeriez voir arriver, vous ?
Voilà, ce qui serait intéressant, c'est déjà de renforcer les interactions entre des chercheurs qui travaillent à différentes échelles. Mmh. Donc le chercheur qui va enregistrer le petit neurone et regarder comment ce petit neurone fonctionne dans telle et telle condition, le rapprocher de celui qui regarde le cerveau à une échelle beaucoup plus globale, dans sa totalité, et qui lui ne verra pas les détails. Donc établir cette communication entre ces différents niveaux, ça me paraît important, et je pense que ce Human Brain Project peut arriver à faire ça.
Mais vous pensez qu'un jour on arrivera à le copier, le cerveau, à faire un cerveau synthétique ?
Honnêtement...
Voilà. Au fond de vous, qu'est-ce que vous pensez ?
Honnêtement, je pense qu'il faut être très humble sur l'état de nos connaissances. Alors un jour, dans 10 000 ans, je ne sais pas, mais certainement pas à court terme, ça c'est sûr.
Mais certains disent, dans 20 ans, dans 30 ans, on y arrivera.
Totalement irréaliste.
Et qu'est-ce qui motive vos recherches, vous ? Vous nous avez expliqué que vous aimeriez bien aider des sportifs, des enseignants, mais au fond, est-ce que biologiquement, il y a quelque chose que vous aimeriez mieux comprendre ?
Oui, bien sûr, j'aimerais comprendre comment fonctionne un cerveau bien attentif, qu'est-ce qui conditionne cette qualité d'attention. Et puis au-delà de ça, quand même, utiliser les neurosciences qui sont un vecteur de communication intéressant maintenant, puisque quand on écoute quelqu'un qui parle du cerveau, il y a une certaine, un pouvoir de conviction en fait de la science qui peut être, à mon avis, utilisé pour faire passer des messages importants et ramener ou donner à l'attention le statut d'une valeur dans notre société. C'est-à-dire... développer cette idée que finalement, il peut y avoir une récompense intrinsèque lorsqu'on est dans une activité à la faire avec attention. Et que ça puisse changer peut-être le rapport des gens à leur activité quotidienne. Finalement, qu'au lieu d'attendre le week-end ou attendre les vacances, ou tout ça, en s'ennuyant le moins possible, ou en essayant de partir dans leurs pensées pour oublier le quotidien, qu'au contraire, ils s'ancrent complètement au quotidien avec cette qualité d'attention pour en tirer une véritable satisfaction, une expérience extrêmement agréable.
C'est marrant, vous parlez comme un bouddhiste.
Peut-être, oui, j'ai peut-être un petit biais de ce côté-là aussi.
Vous êtes en train de nous expliquer que les neurosciences, peut-être, pourraient nous aider à trouver le bonheur.
Oui, en tout cas montrer la voie, certainement pas nous indiquer un chemin très précis à suivre, mais au moins peut-être, disons, là encore, pour rester humble, reformuler des choses bien connues depuis bien longtemps, dans un langage adapté à notre siècle.
Merci beaucoup Jean-Philippe Lachaud.
Merci à vous.
Voilà, j'ai essayé de vous écouter avec le plus d'attention possible.
Ouais, voilà, attention à l'attention, c'est le message.
Qui sait, qui sait, qui sait.
Et pour aller plus loin, Jean-Philippe Lachaud a écrit « Le cerveau funambule, comprendre et apprivoiser son attention grâce aux neurosciences », c'est aux éditions Odile Jacob. Pour réécouter l'émission, la podcaster, nous laisser des messages ou en laisser à Jean-Philippe Lachaud, vous savez qu'il y a la page des Saventuriers sur le site de France Inter. Simone Depoux réalise l'émission avec Christiane Alain Favre et Jean-Baptiste Audibert signe la programmation musicale. À la technique cette semaine, Basile Bocquer et Guillaume Roux. Dans un instant, Isabelle Autissier nous emmènera en mer avec ses récits. Tout de suite, on écoute Barbagallo, à côté de toi. Thank you.
Inter.
Bonjour Isabelle.
Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
Alors Isabelle, les performances des sportifs, ça vous parle? Vous qui avez pratiqué la course au large pendant 15 ans, les plus petits détails, ça compte, vous le savez bien.
Ah oui, 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 j'avais les oreilles qui sifflaient là pendant l'émission. Évidemment, si j'ai choisi de faire de la course au large, c'est en grande partie pour ça, cette recherche de la performance. C'est au fond ce qui vous permet d'être un meilleur marin. Et vous avez raison, c'est les petits détails qui comptent.
Et quand on est seul, qu'est-ce qui est le plus dur au fond?
Le plus grand défi, ça va être de gérer son sommeil. Hein, parce que bon, trop dormir, ça vous fait rater une opportunité météo, mais surtout, ça peut vous envoyer directement percuter un cargo ou un iceberg ou je ne sais pas quoi. Mais pas assez dormir, eh bien c'est presque plus dangereux parce que la fatigue, elle vous rend malhabile sur le pont, elle vous rend inattentive, elle agit sur votre humeur, ça tout le monde le sait, sur votre combativité, elle vous amène à des erreurs de jugement, elle empêche la concentration. Alors, je vous le dis tout net, il est parfois beaucoup plus efficace de s'envoyer dormir, ne serait-ce qu'une demi-heure, que de vouloir à tout prix serrer les dents, et même si tout cela est au prix d'un léger ralentissement du bateau. Le secret, ça sera les période de sommeil très courte, de l'ordre de 20 à 30 minutes. Alors, est-ce que c'est épuisant? Ah tiens, là, les neurosciences auraient peut-être une explication, parce que l'organisme des navigateurs solitaires est capable d'incroyables adaptations. Au fond, le corps se met sous l'influence de ce psychisme, même au cœur du sommeil. Un individu normal, vous ou moi à terre, nous avons des cycles de sommeil d'à peu près une heure et demie. Eh bien, le marin en solitaire va réduire ces périodes à 30 minutes. Il va descendre presque immédiatement en sommeil profond, alors que d'habitude, il nous faut au moins une bonne vingtaine de minutes. Et puis, il va raccourcir les périodes de sommeil profond, de sommeil paradoxal. Et tout ça sans prendre aucune médecine et sans entraînement, parce qu'on ne s'entraîne pas à ne pas dormir. Donc, c'est l'effet du stress, de l'autocontrainte, de la dette de sommeil sans doute. Eh bien, on s'adapte dès le premier jour aux conditions extérieures. Et je vous assure que la sieste d'une demi-heure, eh bien, c'est vraiment reposant.
Mais ça ne suffit pas.
Alors, il y a un deuxième secret, c'est vrai, c'est d'aller dormir au bon moment. Parce qu'au fond, nous avons tous ce qu'on appelle des portes d'entrée dans le sommeil qui nous sont propres. Hein, c'est des moments où l'endormissement va venir facilement. D'ailleurs, on le sait, il y a des gens du soir, il y a des gens du matin. Alors, pour les détecter, rien ne vaut d'enregistrer au préalable ces ondes cérébrales. Alors ça, c'est une question de laboratoire spécialisé. On en déduit une sorte de planning idéal du sommeil, mais aussi, il faut être attentif à tous ces petits signes de l'humeur qui indiquent une grosse fatigue, hein, quand on est grognon. Grâce à ça, le marin profite au mieux des moments de répit que la mer et le vent veulent bien lui offrir. Et on sait que 4 heures à 4h30 de sommeil par 24 heures, eh bien, ça suffit, c'est même la norme pour tenir pendant 80 jours, peut-être pendant un Vendée Globe. Alors, Je ne sais pas si c'est une performance, en tout cas, c'est bien le signe que l'humain est incroyablement adaptable. C'est peut-être ça qui lui a permis de survivre, non, pendant tous ces millénaires. Ça, oui. Je les juge, Fabienne.
Mais merci Isabelle pour cette belle leçon de sommeil. Quand on écoute l'émission, on n'a pas du tout envie de dormir. À la semaine prochaine, Isabelle.
À la semaine prochaine.